Bonjour Monsieur Jauberti, nous aimerions vous poser quelques questions. Tout d'abord, comment trouvez-vous en fait l'inspiration pour vos livres ?
Ah, alors c'est une longue et bonne question. Alors, il se trouve qu'en répondant à une question, je risque de répondre à plusieurs questions. Donc peut-être après ne sera-t-il plus la peine de poser la question prévue si j'y ai répondu. Il se trouve que moi je n'écris que des pièces de théâtre. Vous voyez, je suis ce qu'on appelle un dramaturge ou auteur dramatique, ça veut dire celui ou celle qui écrit des pièces de théâtre. Donc, je n'écris pas de romans, pas de poésie, pas de chansons. Voilà. Ce n'est pas que je n'aime pas les romans ou les chansons. C'est que quand une histoire me vient, quand des situations apparaissent, des personnages me traversent, ben ça prend toujours la forme du théâtre. C'est mon langage, en fait, le théâtre. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que chez moi, personne ne faisait de théâtre. Mon papa et ma maman ne faisaient pas du tout de théâtre, n'allaient pas au théâtre. Donc quand j'étais petit, ben, je ne connaissais même pas le théâtre. Ça ne pouvait pas me manquer parce que je ne savais pas que ça existait. Et puis, peu à peu, en grandissant, ben, au collège, souvent grâce aux profs de français, j'ai découvert le théâtre en classe. Et il était évident au lycée que, je ne savais pas trop pourquoi, mais j'avais rendez-vous avec le théâtre. Et comme les rendez-vous importants dans la vie... Je savais que ça fait peur, mais je savais que si j'y allais pas, je passais à côté de quelque chose. Et donc, plus ça allait, plus il était évident que j'avais rendez-vous avec le théâtre et je suis devenu acteur. Donc, en fait, j'ai fait une école nationale. C'est un concours, en fait. J'ai passé un concours. Puis avant, j'ai joué, bien sûr, quand j'étais en terminale, voilà, tout ça. Puis après, je suis devenu acteur et j'ai beaucoup joué. Et puis, à un moment, des pièces... donc contemporaine ou classique, et puis ça ne me suffisait plus, et puis à un moment, j'ai eu besoin d'inventer mes propres histoires, et je me suis mis à écrire, et comme par hasard, j'ai écrit du théâtre. Alors d'où vient l'inspiration, pour répondre à votre très bonne question, je dirais, elle vient de au moins deux sources, sa propre vie, donc sa mémoire, parce que en fait, un auteur, il ne faut pas croire, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Moi, je n'ai pas plus d'imagination, à mon avis, que n'importe qui, parce qu'on a tous de l'imagination. En revanche, un auteur, ou un artiste en général, je dirais, c'est quelqu'un qui a un sens très développé de l'observation, plus que de l'imagination, et qui a de la mémoire. Et moi, je me souviens de mes émotions de l'enfance, des questions de l'enfance. Alors, je peux les utiliser, mais je ne suis plus un enfant, vous voyez bien. Je n'ai pas l'âge de Lucien Eden ou de Gaspard, voilà. En revanche, ce qu'il traverse, je peux le comprendre parce que je suis passé par là, donc je m'en souviens. Donc, l'inspiration, en gros, c'est la mémoire, c'est ce qu'on a vécu. Il faut bien comprendre qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui parle de lui, mais il n'a pas le choix. Ce n'est pas qu'il est narcissique, l'écrivain. Il n'est pas plus narcissique que n'importe quel artiste, j'ai envie de dire. C'est qu'on ne peut pas faire autrement que parler de soi, mais même inconsciemment. Tous les écrivains que vous lisez, les romans, les poètes, les livres que vous étudiez à l'école et que vous lirez plus tard, ce sont des gens qui parlent d'eux-mêmes. Mais on ne peut pas faire autrement. Donc la source première, c'est soi, sa mémoire, tout ce qu'on a traversé, les bons moments, les mauvais moments, son enfance, son éducation... l'endroit où on est né. Vous raconterez pas les mêmes histoires si vous êtes né au cœur de la Lozère ou si vous êtes né en plein centre de Bordeaux ou de Paris. Parce que vous n'aurez pas eu le même rapport à la nature, le même rapport au temps, le même rapport à l'espace, à l'école, etc., etc. Donc tout ça, ça joue. Et puis l'autre influence, c'est le monde extérieur. C'est-à-dire que moi, je suis comme vos parents. Je vis dans le même monde, c'est-à-dire que j'ai une automobile, je vais faire le plein à Carrefour ou à Intermarché ou à Total, je paye en euros, je vois les mêmes images que vos parents à la télévision, je lis la presse, comme tout le monde, et donc je suis aussi influencé par le monde dans lequel je suis. Parce que l'écrivain, il ne vit pas dans sa tour d'ivoire. Vous savez ce que ça veut dire, vivre dans une tour d'ivoire ? Marie, tu sais ce que c'est ? Toi, t'as pas une idée ? Qui sait ce que ça veut dire ? Quand on dit « Oh, lui, il vit dans sa tour d'ivoire. » coupé du monde, en fait. Ben, un artiste, non, en fait, il est disponible et il observe, ce que je vous disais, il observe le monde autour de lui. Ça ne veut pas dire qu'il le comprend, mais il observe comment font les gens, comment ils réagissent, les guerres. Vous voyez, moi, je, comme vous, hein, comme vos parents, je vois les mêmes infos, la guerre en Ukraine, etc., etc. Voilà, je ne suis pas enfermé dans ma bulle. Et donc, ça va aussi nourrir mon travail, mon œuvre, même si moi, je ne vais pas écrire une pièce sur la guerre en Ukraine, par exemple. Parce que c'est trop réel, ça colle trop à l'actualité. Mais l'inspiration, c'est tout ça. C'est soit sa mémoire, son enfance, sa sensibilité et le monde. Longue réponse, hein ?
Ouais. Ok, du coup, en fait, l'inspiration, ça vous vient de votre vie, de votre enfance, souvent ?
Toujours, et de ce qui m'entoure.
Ah, ok, je vois, je vois. Et dans le théâtre, pour tous les auteurs, c'est pareil ? C'est le thème qui revient souvent ?
Alors ça, moi je ne peux parler que pour mon travail, parce que chaque auteur, ou comme on va dire chaque peintre, ou chaque chanteur, ou musicien, tu vois, fait son propre voyage. L'art, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en art, en tout cas dans mon domaine, peut-être dans d'autres domaines, ce n'est pas le cas, mais dans le théâtre, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Mais le tout, c'est de les connaître. Et moi, je les connais.
Est-ce que vous avez un thème que vous écrivez ?
Alors, c'est une bonne question, là aussi. Pareil, je pense qu'un auteur, en tout cas, moi, c'est mon cas, n'est pas du tout... On n'écrit pas sur un thème. C'est pas un moteur. En revanche, avec du recul, on peut se dire, tiens, je m'aperçois que dans mes pièces, souvent, ce thème-là revient. Mais ça, c'est l'inconscient, parce qu'il faut bien comprendre que l'écriture, c'est l'inconscient qui s'exprime. Parce que l'écriture, elle est beaucoup plus maligne que nous, elle ne se livre pas facilement. L'écriture, elle se cache. Quand on commence à écrire, en général, c'est pas bon. Mais il ne faut pas se décourager, c'est normal. Parce qu'on n'écrit que des choses, souvent qui ont déjà été dites, déjà exprimées, un peu stéréotypées. Mais c'est une étape nécessaire. Parce que l'écriture, elle se cache. Donc pour la débusquer, il va falloir aller creuser et trouver l'insolite, l'inouï. Comment ça n'a pas encore été dit ? Et il faut surtout y être complètement. Parce que quand on écrit, on est complètement dans l'histoire. Même si, par exemple, voyez, Lucien Eden, ce n'est pas ma propre vie. Moi, je ne suis pas une fille. J'ai jamais vécu sur une île. J'ai pas été élevé par un vieux fou qui perd la boule. J'ai jamais rencontré un gars ou une fille qui sortait sur un tas de plastique pollué. Tout ça, c'est de l'invention. Tout ça, c'est la fiction. En revanche, les émotions qui traversent, moi, je les connais. Parce que sinon, je pourrais pas en parler. Les questions qui les animent, je les connais. Parce que sinon, je pourrais pas en parler. Vous voyez ? Et donc, en gros, mon boulot, c'est de faire du faux, tout ça c'est faux, c'est fabriqué, c'est une fiction, mais pour mieux aller où tout est vrai. C'est comme si on faisait un cadre, la fiction c'est un cadre comme une peinture, c'est du faux, mais pour montrer des choses vraies, pour que les émotions des spectateurs ou des lecteurs soient réelles. Ça va, c'est pas trop compliqué ça comme réponse ? À 8h du mat, c'est ardu, hein ? Il y en a qui se disent, oh là, je suis encore dans mes chocs à pic, là. Qu'est-ce qu'il me dit, là ?
Nous, on a lu votre livre Lucien Eden, et on a regardé avec Elsa rapidement d'autres de vos livres sur Internet un peu. Ah. Et vous avez reçu plusieurs prix pour des livres.
Comment vous savez ce qui plaît au public ?
Attends, pour revenir à ta question précédente, Elsa, c'était quoi ? Est-ce que j'ai bien répondu ? Redis-moi, c'était quoi ? Ah oui, voilà, sur le thème, oui, juste pour finir sur le thème. Et donc, on s'aperçoit, au bout d'un moment, qu'il y a, des thèmes récurrents. Alors, et ça, c'est pas un choix, parce que ce qui m'intéresse d'abord, c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, je ne fonctionne pas par thème, je fonctionne par situation. C'est-à-dire que moi, quand une histoire me vient, je invente une situation. Ce qu'on appelle une situation dramatique. C'est ça le boulot de l'auteur. Et c'est quoi une situation dramatique ? C'est un moment qui va mettre en mouvement, en action, deux forces, deux êtres humains, en général, qu'on va appeler après des personnages. Donc c'est un peu compliqué, mais dit plus simplement, il faut trouver un moment qui va faire bouger, obliger, un bouger qui va obliger, obliger, A et B. Donc ça, c'est la base de la dramaturgie. La dramaturgie, c'est l'art de faire du théâtre ou du cinéma. Bon, on peut parler de dramaturgie pour plein de choses, aussi pour la danse, on en parle d'ailleurs, ou autre, mais bon. Donc là, ma situation primaire, c'est A, découvre, donc c'est Lucienne. Au début, elle s'appelait pas Lucienne, hein. Elle s'appelait A. A découvre dans un endroit qu'elle connaît bien, donc son territoire, son île, qu'elle connaît par cœur, un obstacle, un intrus, quelque chose qui crée du désordre. Sur son île de sable blanc, de sable vierge, comme ça, tout va bien, et soudain, plaf, on lui balance nos déchets, en fait, parce que nos déchets viennent de nous, de la mer, mais avec les sacs de pétrole, tout ça. Et donc là, ça bouleverse sa vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans le tas de déchets, il y a la vie, et il y a surtout ce garçon. Et en même temps qu'elle est en colère contre lui, et en même temps naît le désir. Donc il va se passer quelque chose en elle de contradictoire. Et B, lui, il a son moteur, c'est, vous le savez parce que vous avez lu la pièce. Hein, vous savez pourquoi il est là, c'est parce qu'il cherchait son papa. Il a été pris, voilà. Et donc lui, il se retrouve sur cette île et il pense que son papa, il est sur l'île. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'il faut au départ, c'est que la situation dramatique mette en mouvement ces deux forces. Et le plus important, c'est que A et B aient quelque chose à perdre ou à gagner. Ça, c'est la base du théâtre. Donc je me pose la question, quand A découvre le tas d'ordures, est-ce qu'elle a quelque chose à perdre ou à gagner? Je me dis, oui, elle a quelque chose à perdre. L'idéal de son île, c'est-à-dire que ça y est, elle est souillée, elle est salie à jamais. Parce que là, les déchets, on ne va pas pouvoir les enlever comme ça. Le pétrole, c'est très dur à enlever d'une plage. Donc elle a quelque chose à perdre. Mais elle a aussi quelque chose à gagner. C'est quoi? Avec la découverte de Gaspard. Qu'est-ce qu'elle a à gagner quand elle découvre Gaspard?
Un ami.
Oui. Vas-y, Gaspard. Gaspard. Ah, tu t'appelles Gaspard. Ah, ben ça tombe bien, alors.
Elle a Gaspard à gagner?
Oui, complètement. Plus qu'un ami. Elle a à gagner l'amour. Mais le sexe, le désir, elle n'a jamais vu. Et soudain, elle se sent attirée par ce gars plein de saleté. Bon, après, elle le lave, etc. Donc après, ça, il est plus présentable, on va dire. Voilà. Et lui, de son côté, il a quelque chose à gagner, c'est retrouver son papa. Donc à partir du moment où les deux forces, A et B, ont quelque chose à perdre ou à gagner, alors on peut lancer la pièce de théâtre ou le film. La situation dramatique, parce que drame, vous le savez peut-être, ça veut dire action. Hein? Donc une situation dramatique, c'est ce qui met en action les forces qu'on appelle des personnages. Et c'est ça qu'il faut trouver. Et les thèmes, en général, ils viennent après. En tout cas, pour moi, je fonctionne comme ça. Voilà, c'était pour répondre à... Alors, Elsa, pose-moi celle d'après.
Comment vous savez ce qui plaît au public?
Ah oui, alors ça, c'est là qu'il faut être malin. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que j'ai un cerveau, mais que je ne suis pas unique. Je pense que les autres ont le même cerveau que moi. C'est-à-dire que je me dis que ce qui me fait rire va sans doute faire rire pas mal de gens. Ce qui me fait pleurer va sans doute faire pleurer pas mal de gens. Donc, toujours pareil, j'invente mes situations, je coince mes personnages dans une situation pour les obliger à réagir, et je me dis que les spectateurs ou les lecteurs vont s'identifier au problème de Lucienne, ils vont s'identifier au problème de Gaspard. Voilà, parce qu'on a le même cerveau, en fait, tout simplement. Alors après, on ne peut pas savoir si ça va être un succès ou pas. Est-ce que ça va plaire au sens large ou pas, ça on ne sait pas. Par contre, moi, ce que je veux, c'est mon objectif, c'est que le lecteur et le spectateur, parce que moi j'écris des pièces de théâtre, comme je vous ai dit au début, c'est-à-dire j'écris pour qu'elles soient jouer, incarner sur scène. Et ce que je veux, c'est que le spectateur soit touché par la pièce, plaise si tu veux, mais c'est-à-dire que ça le fasse rire, que ça le fasse pleurer, que ça le trouble, que ça l'énerve, que ça lui fasse peur à certains moments, etc. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de vous déplacer émotionnellement. Parce que moi, je le sais que pendant une représentation, le spectateur, il est assis sur la chaise. Je le sais qu'il ne va pas bouger. Et lui aussi, il le sait. Vous savez bien, quand vous rentrez dans un cinéma ou dans un théâtre, vous êtes assis, vous savez bien que physiquement, il ne va rien vous arriver. Par contre, ce que vous attendez, c'est que émotionnellement, on vous déplace. Et vous savez qu'à la fin, la lumière va se rallumer, vous allez vous lever, vous allez rentrer chez vous. Votre intégrité physique n'aura pas été touchée. En revanche, vos émotions ont été touchées. Et c'est ça notre boulot. Et c'est très dur à faire. Parce que quand vous riez, par exemple, quand vous êtes devant votre film en vidéo ou au cinéma ou au théâtre, bon, d'après vous, vous riez pour de vrai ou pour de faux? Toi, tu dis quoi? Vas-y. Pour de vrai? Alors, ça peut jouer, mais devant une fiction, donc devant quelque chose que vous savez faux. Quand vous voyez des acteurs qui jouent, vous savez que c'est faux. Quand vous voyez un film, vous savez que c'est faux. L'acteur, il ne meurt pas pour de vrai. Vous le savez. Mais vous, quand vous riez pour de vrai ou pour de faux? Toi, tu dis pour de vrai, toi aussi? Ah, et quand vous pleurez, par exemple, quand vous pleurez devant le roi lion, ou que le petit, il a perdu son papa, qui est mort, vous pleurez pour de vrai ou pour de faux? Eh bien oui, parce que les larmes qui coulent, elles ne sont pas en plastique. Donc, l'auteur, les réalisateurs du roi lion ont réussi. C'est-à-dire qu'avec quelque chose de faux, et vous savez que c'est faux, parce que vous voyez bien que c'est un dessin animé, on a créé une émotion vraie. On pleure pour de vrai. Et on rit pour de vrai. Quand on rigole tout seul ou à plusieurs, on rit pour de vrai. Et c'est ça notre boulot. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On crée un cadre, ce qu'on appelle la fiction, quelque chose de faux, mais pour aller où tout est vrai. Et le bien que ça nous fait, quand on rit ou qu'on pleure, c'est qu'on sait que c'est faux. On sait que tout ça, c'était un dessin animé. Et à la fin du Roi Lion, on se relève et on dit « Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de pleurer. Qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler. » Et on appelle ça la catharsis. La catharsis, c'est très vieux. C'est un vieux monsieur grec qui s'appelait Aristote qui a inventé ça. Et c'est la base du théâtre. C'est-à-dire, ça veut dire une douche émotionnelle, en fait. Vous prenez une douche émotionnelle quand vous êtes devant une fiction au théâtre ou au cinéma. Et ça fait du bien. Comme une douche, comme une vraie douche physique, si vous voulez. On est sous l'eau chaude, on est bien. Et bien là, c'est une douche émotionnelle, ça fait du bien parce qu'on sait qu'on ne risque pas son intégrité physique. On fait un vrai voyage émotionnel. Mais dans la vie, ce serait traumatisant. Dans la vie, ce serait traumatisant. Vous assistez à la mort d'un papa et son fils, il dit « Papa, papa !» Vous voyez ça dans la rue, vous êtes traumatisé. On sait que c'est faux. Et en même temps, c'est tellement bien fait que le cerveau croit que c'est vrai. Mais juste le temps du film ou de la pièce. Après, on rentre chez soi, on va boire un pot. « Ah, ben c'était sympa. Oh, il m'a eu, là, dis donc, là, qu'est-ce que... » Et en fait, ça fait du bien. Ça fait, la fiction nous fait du bien. Ça va, c'est pas trop compliqué? Sinon, je dis autre chose. Hein.
Et après, il y a eu aussi le livre Un chien dans la tête qui a eu un prix. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement?
Alors, par exemple, Lucienne Eden, ça n'est pas une commande. Ça veut dire que c'est moi tout seul qui ai écrit cette pièce. Enfin, au départ, il y a un copain metteur en scène qui m'a dit quand même, est-ce que tu pourrais pas écrire une pièce sur le bouleversement écologique, le changement climatique, etc. Bon, je n'étais pas très enclin à le faire, et puis finalement, je l'ai fait, mais bon. Mais ce n'était pas une commande. Alors qu'un chien dans la tête, par exemple, c'est une commande. Et en fait, la moitié de mes pièces sont des commandes. Alors, pour préciser, moi, ça fait 22 ans que j'écris. J'ai écrit 22 pièces. Je n'ai pas fait exprès. La moitié... Tiens, tu peux me passer le livre, s'il te plaît? Vous voyez? Alors, elles sont toutes publiées aux éditions théâtrales. C'est marqué en bas, éditions théâtrales. Donc, Un chien dans la tête aussi, toutes mes pièces. Et en gros, j'en ai la moitié qui est dans la collection Jeunesse, comme Lucienne Eden. ou un chien dans la tête, et l'autre moitié qui est dans la collection adulte, entre guillemets. Mais ça ne veut rien dire, parce que ça, par exemple, vos parents peuvent tout à fait le lire. Ça s'adresse aussi bien aux jeunes qu'à l'adulte. Et il y a des pièces qui sont en adulte qu'à partir de la quatrième, troisième, vous pouvez tout à fait voir. Donc, c'est pas moi qui décide des catégories. Voilà. Et alors, donc, la moitié sont des commandes. Et par exemple, un chien dans la tête, c'est une commande. Alors, un jour, il y a un metteur en scène qui me téléphone et qui me dit « Monsieur Jauberti, est-ce que vous voulez bien écrire une pièce que je vais mettre en scène dans 2 ans ?» Parce que souvent, c'est 2 ans. La commande, c'est 2 ans avant. Bon. Alors, bon, moi, je connaissais un peu son travail. Voilà, je savais qu'il était un metteur en scène important. Bon, tout ça. Ouais, on se rencontre, tout ça. Après, on se tutoie très vite au théâtre, on se tutoie très vite. Hein. Alors, sur quoi voudrais-tu que j'écrive ? Il me dit, ben moi, il y a un thème que je trouve pas exploité au théâtre. C'est le thème de la honte. Voilà, tu parlais de thème. La honte. Ah, je dis, ben ouais, pourquoi pas ? Alors, de moi-même, vous voyez, je n'aurais pas écrit sur la honte. Et en fait, j'ai inventé une pièce qui s'appelle Un chien dans la tête, où c'est un garçon. Alors, il n'a pas de nom. On l'appelle le fils, je crois, ou le garçon, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, il dit « Tout allait bien dans ma vie, jusqu'au jour où la tête de mon père a commencé à partir. » Et ça veut dire que son papa, ben en fait, il est devenu fou. Et il vit dans sa maison avec sa mère et son père. Et depuis qu'il perd la tête... Et bien en fait, le papa, il est enfermé dans la chambre des parents. C'est une petite maison, donc la chambre, elle est en haut. En bas, il y a le salon. Puis il y a la chambre du fils à côté. Et puis il entend le père marcher dans cette chambre. Et il ne sort plus, on ne le voit plus. Et il dit à sa mère, mais pourquoi il sort ? Mais non, mais pour l'instant, il faut le laisser, etc. Mais je ne peux pas aller le voir. Non, c'est trop tôt, il faut laisser... Mais pourquoi je ne peux pas y aller, maman ? C'est parce qu'il est fou, c'est ça ? Et là, quand il dit le mot, il dit, tu dis pas ça ! Quoi ? Ce mot, tu l'effaces ! Mais on ne peut pas effacer les mots, tu l'effaces ! Et en fait, la mère, elle a honte de ce père-mari fou. Et ce qui est très bizarre, c'est que elle ne sort plus, non plus. Et lui, quand il sort, dans le quartier, on l'appelle, hey ! Oh ! Le fils du fou ! Quoi ? Alors ton père, il est fou, c'est ça ? Ben non, n'importe quoi. Et ta mère, elle va vous quitter ? Ben non. Ben bien sûr qu'elle va vous quitter, tout le monde le dit, puisque ton père est fou. Elle va vous laisser, lui et toi et ton père. Et au bout d'un moment, il ne veut plus sortir, il commence à avoir honte. Il dit, mais moi, mon père, je l'aimais. Je pensais que c'était un père, quoi. Et puis en fait, il s'aperçoit que son père, ben, il commence à pas l'aimer. Il lui fout la honte. Et il commence à avoir des problèmes à cause de lui. Et la mère... Elle ne veut plus sortir et elle passe ses journées enfermée dans l'appartement avec sa robe de chambre. Elle fume cigarette sur cigarette et elle se cache derrière un mur de mensonges et elle fait comme s'il n'y avait pas de problème. Et elle dort dans le canapé du salon. Elle passe sa journée devant la télé et lui, il voit bien que ça ne va plus. Et au bout d'un moment, il pète les plombs, en quelque sorte. Il fait une crise, en gros, tellement il est harcelé. Et il se retrouve dans un endroit dans lequel il n'est jamais venu. Et en fait, il s'aperçoit qu'il est dans son jardin secret. Et là, c'est calme. C'est son imaginaire, en fait. Voilà. Bon, et après, il se passe d'autres trucs. Et alors, pourquoi me parles-tu de cette pièce ? Parce que tu l'as lue ?
Non, justement, je ne l'ai pas lue. Mais j'aurais bien aimé la lire quand je trouverai un livre pour la lire. Oui. Mais parce qu'on a regardé, et en fait, il y a plein de livres qui avaient eu des prix.
Ah oui.
Et avec Elsa, on aime bien les animaux, et du coup, celle-là...
Alors oui, pourquoi un chien dans la tête ? C'est parce que les autres disent, c'est toujours les autres, en fait, qui vous foutent la honte. C'est le regard de l'autre. Et puis, c'est quoi ce chien-là que vous avez ? Du ben n'importe quoi, on n'a pas de chien. Si, parce que on le dit chez toi, on entend grogner. Et des fois, lui-même, il entend son père marcher au-dessus... On ne peut pas aller voir le père. Et il s'aperçoit, au bout d'un moment, il essaie d'aller voir le père en cachette. Et en fait, il s'aperçoit que c'est fermé à clé. Et c'est la mère qui a fermé à clé, en fait. C'est la mère qui l'a enfermé. Et il entend grogner. Et il se dit, mais est-ce que mon père ne serait pas en train de se transformer en chien ? C'est pour ça que ça s'appelle un chien dans la tête. Et les autres disent, On entend grogner, t'as un chien chez toi. Il dit, mais non, on n'a pas de chien. Et est-ce qu'ils n'ont pas raison? Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un chien, et puis à un moment qui s'échappe par la fenêtre, un gros chien, et qui devient dangereux dans le quartier? Voilà, pour ça, un chien dans la tête, il y a une dimension un peu fantastique.
Et à quel moment de la journée vous écrivez?
Alors, moi j'aime bien écrire le matin, mais j'écris quand je suis chez moi. Par exemple, là tu vois, je suis en déplacement, je suis avec vous ce matin, hier j'étais avec une autre classe, encore demain, donc là j'écris pas du tout. En ce moment, quand je suis en déplacement, j'écris pas du tout. Mais quand je vais revenir chez moi, parce que moi je vis pas ici en fait, j'habite très très loin. Je ne sais pas si vous connaissez, j'habite à Bayonne. Tu connais? Sur la carte, tu vois où c'est. Et tu vois, c'est loin quand même. Hein, je suis venu en automobile pour vous voir. Ah oui. Une voiture, une automobile, c'est comme une voiture en fait. C'est pareil. Voilà, donc j'écris le matin en général, j'aime bien. Mais bon, après je peux écrire toute la journée. Hein. Ah, il faut passer à la... On a déjà posé plein de bonnes questions. Hein. Bravo les filles. Tiens, je te rends ton livre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
De rien, Marie.